Sol majeur.
L'histoire familiale du chorégraphe Thierry Tuenyang mérite bien une petite danse, car c'est une romance qui démarre dans les bras de la colonie à Hanoï, entre un tirailleur sénégalais et une vietnamienne. Avec un petit effort de perspective, d'ailleurs, Marguerite Duras aurait presque pu écrire cette histoire. Enfin bon. En tout cas, c'est comme ça que quelques paquebots plus tard, du côté de Colmar, en Alsace, le petit-fils de cette histoire deviendra, en deux, trois mouvements, un chorégraphe forcément français et très porté sur les déplacements du corps. C'est-à-dire que tout est mouvement pour vous, Thierry Tuenyang, même votre maison se déplace?
Oui, tout est mouvement. Tout est mouvement. Mouvement de la pensée, mouvement des émotions, mouvement des gestes, mouvement du temps, mouvement de l'espace. Et oui, je suis un éternel voyageur, un nomade. Ma maison, elle est là où je suis, pour le travail, pour la vie. Et puis, ici et ailleurs, enfin, c'est...
Donc l'idée de la maison, c'est pas quelque chose qui se fixe dans un endroit pour
non,
vous? Surtout
non,
pas.
Surtout pas.
Vous avez peur de ça?
Non, j'ai pas peur. Pendant très longtemps, j'ai eu plusieurs maisons, puisque je vivais à Paris et à Marseille. Parce qu'à Marseille, j'avais des projets. Et non, j'aime bien l'idée d'avoir plusieurs maisons, et elles n'étaient pas pareilles, et puis c'était bien.
Et je crois savoir que dans vos quatre murs, il y a des petits mondes aussi, plein de cartes routières, avec des atlas, avec des livres sur l'Afrique, sur le Vietnam. Alors on va défaire encore ces cartons petit à petit et se prendre maintenant une bonne rasade, si j'ose dire, de Berlioz, avec Le spectre de la rose, interprété par Régine Crespin. Faut nous donner le mode d'emploi de ce morceau, surtout pour ceux qui sont des adeptes du rap, par exemple.
Voilà, mais... Alors Berlioz, je suis pas un grand fan de Berlioz, mais j'aime beaucoup ces mélodies-là. C'est des mélodies très très belles, qui sont, il y en a cinq, des toutes petites, elles sont très courtes. Et Le spectre de la rose, pour moi, c'est la danse, c'est cette chose invisible où tout à coup un corps se met à bouger, et puis et Nijinsky l'a dansé, Nureyev l'a dansé.
Et c'est vous, une histoire, vous l'avez dansé aussi?
Non, jamais, jamais.
Pourquoi pas?
Parce que d'autres l'ont fait, que voilà, c'est plus mon histoire, c'est mon livre d'histoire, et dans mon livre d'histoire, il y a ce spectre d'une rose, et j'aime bien aussi l'idée de cette incarnation du visible et de l'invisible, et que la danse est aussi un art de l'invisible.
Thank you.
rose en sol majeur, même pas peur du spectre de la rose. Merci Régine Crespin, je dirais que vous êtes un peu le bouquet de cette journée. Tout ça posé sur le plateau d'un chorégraphe aux pieds nus, Thierry Tuenyang.
Écoutez, cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose.
Là, j'ai 18 ans. Là, 16 ans, la SADEC, le long du Mekong. La robe était verte. Ma mère, là, c'est mon fils et moi. À côté de moi, c'est mon frère, Joseph, du barrage. Il est mort très jeune pendant la guerre en Indochine, faute de médicaments. Pour mon père, je ne l'ai pas connu. Il est mort, j'avais 4 ans. Il a fait un livre de mathématiques que j'ai perdu. Tout ce qui me reste de lui, c'est cette photographie, une carte postale, écrite par lui, ses enfants, avant de mourir. Ça, c'est une calèche dans laquelle on sortait le soir à Vinlong. Je me souviens passer près de Lazaret, et ensuite on traversait des rizières, et on venait par les rives du Mekong. La nuit venait quand on rentrait.
Marguerite Duras qui promène donc son regard sur les photographies de son enfance coloniale dans l'Indochine française, qui produira évidemment les romans que l'on sait. Alors vous, Thierry Tuenyang, quand vous l'entendez comme ça évoquer le Mekong, ces calèches qui longent les rizières de Vinlong, qu'est-ce qui se passe en vous ?
Je suis très ému parce que c'est ces textes-là, c'est cette voix-là qui m'ont parlé du Vietnam en premier, je crois. Le silence familial autour de cette période, de l'exil de mon père, du voyage, comment grandir dans les années 60, 70 en tant que métis dans une ville comme Colmar, dans une région comme l'Alsace, dans un pays comme la France. C'est en lisant, découvrant Marguerite Duras, l'amant, le barrage, tout ce qui m'a commencé à me parler d'un Vietnam. Un Vietnam, évidemment, en noir et blanc, un Vietnam nostalgique, un Vietnam colonial. Et en 93, j'ai fait le premier voyage pour le Vietnam avec une bourse Villa Médicis hors les murs. Et j'ai vu tous ces gens dans les rues, j'ai vu cette foule, j'ai vu des hommes de dos qui me rappelaient mon père, j'ai vu des hommes endormis sur des tables de café, je me suis dit mais c'est mon père. Et puis des gens qui me parlaient en vietnamien et tout à coup on ne me demandait pas d'où je venais, si je me taisais. et tout à coup j'ai vu un Vietnam en couleur, alors que je crois que pendant très longtemps j'ai vu un Vietnam en noir et blanc.
C'était quoi au départ le projet de cette bourse Villa Médicis en 92 quand vous partez là-bas ?
C'était un prétexte terrible, c'est-à-dire que j'avais envie d'aller au Vietnam, j'avais pas envie d'y aller comme un touriste, j'avais pas envie d'y aller cherchant quelque chose d'intime, on va dire. Donc j'ai cherché autour, j'ai cherché plus loin. Donc l'idée était de...
Et pourquoi ne pas avoir envie d'aller dans cette direction de l'intime ?
Parce que je me dis que c'est en cherchant autour que je peux trouver des choses pour moi dedans, et qu'à force souvent d'introspection, de chercher au fond de soi, on se ferme un peu sur soi-même et on se coince dans une histoire ou dans un corps, et que c'est peut-être en ouvrant les yeux, en ouvrant des portes, en faisant des valises qu'on peut trouver beaucoup plus de choses de soi que... Voilà.
Alors ce pourtour,
c'était donc évidemment c'est à travers la danse, de chercher à travers des danses traditionnelles, une à Hanoï, une à Hue et une à Saigon, et de chercher ce qui restait dans les traces des danses qui avaient été bousculées par l'histoire de la guerre, et rencontrer des vieilles personnes qui avaient dansé ces danses-là. Ces vieilles personnes, je les ai croisées, elles m'ont transmis une danse folklorique, une danse paysanne dans le nord, une danse impériale dans le centre et une danse plus théâtrale, plus dans le sud. Et donc j'ai appris ces trois danses et ensuite j'ai des...
Vous qui êtes un danseur contemporain.
Moi qui
à la
suis
base.
Un danseur contemporain, qui ne sait pas du tout... toutes les danses traditionnelles, je ne les connaissais pas. Et puis... passant du temps avec ces personnes-là, elle me parlait forcément aussi de la guerre, elle me parlait forcément aussi du temps où les Français étaient là. Et comme un témoin, comme un témoin en athlétisme, hop, une fois cette danse apprise, il fallait pas que je la garde pour moi, il fallait que, donc je suis allé dans les écoles de danse, de Hanoï, de Hue, de Saigon, et j'ai rencontré des jeunes danseurs de 20 ans qui regardaient leur danse traditionnelle de façon un peu folklorique, un peu lointaine, et le fait que ce soit moi qui vienne les transmettre autrement, avec une autre façon d'aborder le mouvement, sans forcément passer par le costume folklorique, mais juste chercher l'essence du mouvement. Et voilà, comme un.
Et c'est comme ça que vous avez trouvé votre place finalement entre les anciens et les jeunes.
Complètement.
Dans ce passage de relais. Comment est né chez vous cet amour du mouvement ? Parce que je rappelle, au départ, vous êtes instituteur puis psychomotricien. Mmh. Comment ça naît ce désir de dire avec le mouvement ?
Je crois que dans l'enfance, c'est du mouvement. L'enfance, c'est le mouvement. Et comme je disais tout à l'heure.
Mais quels étaient les mouvements de votre enfance alors ?
Oh, c'était la cour et le jardin des grands-parents, c'était le square en bas des immeubles, c'était la natation, j'ai fait du football, j'ai fait de la gymnastique très longtemps. J'ai des parents très très physiques, donc on allait marcher le dimanche. Le mouvement était très très présent et le mouvement de la nature, les saisons. C'est une région où les saisons sont très très importantes. Il fait très chaud en été, il fait très froid en hiver. Voilà, je crois que le mouvement est toujours été là. Je suis tout le temps en train de, dans mon calme et mon immobilité,
de bouger.
Apparente, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup.
De vous déplacer.
Quando lhe pergunto de onde vem, o que você responde? Quand on vous demande d'où êtes-vous, que répondez-vous ?
Oh là là, d'où je suis ?
Oui, oh bah oui, ça mérite une petite vie de réflexion. Ça.
Oui, oui. Je viens d'où ? Je viens d'ici.
Quelle place, ce serait ça le temps de la question autour de l'Afrique, quelle place vous réservez également au Sénégal dans votre métissage avec ce grand-père tirailleur sénégalais ?
Je crois que je lui réserve une place étrange, puisque je dis pas Sénégal, je dis Afrique. Je crois que c'est très très troublant, c'est que autant je peux parler très concrètement du Vietnam, autant le Sénégal, je dis l'Afrique parce que j'ai eu la chance d'avoir été au Sénégal, d'avoir été au Nigeria, d'avoir été en Afrique noire, vraiment, Cameroun, Bénin, Togo, et j'ai beaucoup voyagé par là. Et d'avoir aussi eu... Donc c'était un... Je me suis rendu compte aussi que c'était une Afrique francophone. Et par le biais d'une bourse, d'une invitation d'un chorégraphe kényan, je suis parti au Kenya, donc une Afrique anglophone, une Afrique de l'Est. Et j'ai découvert une autre douceur de
vivre.
Vous
avez travaillé là avec les enfants des rues au Kenya.
Voilà.
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Donc ce chorégraphe kényan, Opio Oka, invitait comme ça des chorégraphes dont il avait repéré un parcours comme ça, de façon... C'était une bourse de l'UNESCO. Et l'UNESCO invitait des artistes à interroger des programmes autour de l'éducation artistique, mais aussi de l'éducation tout court. Et Opio, connaissant mon travail, avait envie que je sois un des pionniers de cette aventure, et de chercher à travers des enfants des rues, à travers les orphelinats de Nairobi, de comment on pouvait, à travers un lieu réinventé, c'était un vieux garage, d'inviter ces enfants à passer la journée avec nous, et puis à travers le mouvement, il y avait du cirque, il y avait de la danse, il y avait de la musique, comment dans ces résidences d'artistes, comment ces gens-là pouvaient s'inscrire et participer au travail.
Parce que j'ai l'impression que Si on doit parler de transmission avec vous, Thierry Tuenyang, il faut vous entraîner vers cette sphère de votre travail sur le corps et sur le mouvement. Le fait, par exemple, que vous ayez croisé ce que vous appelez des corps empêchés, toute l'histoire de la transmission pour vous se passe là-dedans. Qu'est-ce que vous cherchez auprès de ce que vous appelez les corps empêchés?
Je cherche un autre corps.
C'est qui les corps empêchés?
Alors, les corps empêchés, c'est ceux que la société, que le monde dit qui sont empêchés de culture, empêchés de mouvement.
Donc les autistes?
Des autistes, des seniors, des personnes âgées, des enfants handicapés, des prisonniers. Mais c'est aussi... quand je travaille avec un chanteur d'opéra ou avec une comédienne, c'est un autre corps. C'est un autre corps que le mien, d'abord. C'est un autre corps que celui de la danse. Et qu'à un moment donné, j'ai eu autant dans mon histoire de chorégraphe, de danseur, eu envie de travailler avec d'autres corps, de pas travailler avec mes pairs, de plus danser qu'avec des danseurs, mais de pouvoir aussi danser avec un enfant, de pouvoir danser aussi avec une personne âgée, et puis de chercher danser avec un Africain, danser avec une Asiatique, c'est pas pareil que, voilà. De chercher un autre corps qui puisse me mettre en mouvement et que je peux mettre en mouvement.
Le corps vous permet de rencontrer l'autre, quoi. À côté de votre calme apparent, Thierry Tuenyang, il y a peut-être une réaction en sourdine vis-à-vis de votre pays, cette France amnésique vis-à-vis de son passé colonial. Est-ce que vous avez une formule que vous ne m'avez pas dite là à l'antenne, mais vous le dites volontiers, je suis le fruit d'un orgasme colonial.
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette formule parce qu'elle est, elle parle d'amour aussi. Elle parle de désir. Elle parle de corps à corps et que.
Elle parle de colère aussi, non?
Elle parle de colère, elle parle de colère, mais une colère qui est pas une guerre. Je crois que moi, je suis quelqu'un du côté de la paix. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de mettre en relation des différences, de mettre en relation des tensions, des courants contraires pour chercher justement un peu cet espace. Je cherche pas ce qui m'intéresse pas, c'est tout à coup qu'on soit ensemble de façon fusionnelle. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir voir l'espace qu'il y a entre deux personnes, et c'est dans cet entre qu'on peut inventer, qu'on peut s'aimer.
I comme inventaire.
Alors votre inventaire à vous ne s'arrête pas vraiment aux frontières de votre histoire et de vos géographies, Thierry Tuenyang. Je vous ai demandé trois noms comme ça, de trois grandes figures. C'est toujours compliqué, mais trois grandes figures qui vous suivent un peu comme des ombres chinoises, si vous me permettez, dans votre travail. Trois noms qu'on pourrait déposer sur le plateau du chorégraphe que vous êtes pour voir comment il réagit justement, ce chorégraphe. D'abord Matisse le peintre qui savait dessiner le J de jazz. Alors, est-ce que Matisse, c'est le peintre du mouvement pour vous?
C'est le peintre de la lumière, c'est le peintre du soleil, c'est le peintre des fenêtres ouvertes, c'est le peintre qui, à un moment donné, prend juste des ciseaux et il découpe dans la couleur et ça devient de la peinture. Et puis, c'est un homme qui regarde les autres et qui est un homme qui est parti du nord pour aller dans le sud.
Son art était fondé aussi sur l'instinct, essentiellement. Est-ce que ça, c'est un de vos ingrédients quand vous vous jetez à corps perdu sur le plateau, mais aussi dans ces coins de terre type l'Afrique, type l'Asie?
Tout à fait. C'est l'instinct, c'est aussi le rapport au végétal, le rapport à la lumière, au soleil, la nuit, aux fleurs, aux arbres.
Autre nom, autre maître de l'instinct, peut-être, je ne sais pas, c'est le réalisateur John Cassavetes.
Is it the end of the world? You want a drink?
No, it's not the end of the world.
What is it?
I'm not good enough for you.
You're not good enough for me?
No.
Well, I don't want to hear that. I really don't want to hear that. You're my inspiration. Before I met you, I was a bum. I was a drunk. I was a drunk with a pad. I was W.C. Fields without a nose. I was Dean Martin without any charm. That was no good, really.
Cassavet.
Wow.
Et ouais, comme vous dites, Gina Rowlands qui rendent la frontière entre le réel et la fiction toujours très floue dans Opening Night. Est-ce que ce flou, c'est quelque chose qui vous intéresse?
Le flou, l'improvisation, l'instinct. Quand la fiction est le quotidien ou la réalité, l'histoire personnelle et l'histoire du monde, cette tension, ce désir aussi, cette famille, l'idée de famille, d'inventer ensemble. Voilà, ils sont ensemble. Souvent dans les films de Cassavetes, il y a leurs parents, il y a leur mère qui traînent autour et
il y a leur histoire.
Il y a leur histoire presque. Et puis comment cette histoire n'est jamais égoïste, elle est jamais, elle est tout de suite universelle, elle est tout de suite, elle nous raconte à tous et à chacun quelque chose, quoi.
Alors on pourrait finir avec du style, le style viennois. Qu'est-ce qui se passe là quand vous êtes sur la planète Mozart, Thierry Tuenyang?
J'ai aucune culture musicale je travaille à l'opéra, je travaille avec des musiciens, mais je n'ai pas grandi dans la musique, je sais pas lire la musique et je crois que pour moi le grand art pour moi c'est la musique, c'est la voix. J'ai la chance de travailler avec des chanteurs maintenant et quand ils chantent, je me dis j'ai plus envie de bouger, j'ai même plus envie de danser quand j'entends ce que peut une voix. Et Mozart, c'est un parcours. Je crois que Mozart, c'est quelqu'un qui, un compositeur, que ce soit dans sa musique ou dans l'opéra, qui m'a permis d'avoir peut-être, pas honte d'avoir de cette chose élitiste qui nous, on a l'impression que cette grande musique est pas pour nous et elle fait pas partie de notre culture. Et quand on est justement des enfants métissés, on se dit c'est quoi? Ça nous appartient pas. J'ai l'impression que nous, on n'a pas grandi dans la musique enfant et parce que on en avait peur. Mmh. Et j'ai l'impression que Mozart nous permet justement d'écouter ce qu'on entend là, par exemple, de se dire, mais bien sûr, on n'a pas à en avoir peur, c'est tout proche, quoi.
On aurait pu aussi parler de Dolto et de Barthes, et non pas de Roland Barthès, ça c'est pour Nicolas Sarkozy, comme
ça. Oui,
Barthes fait partie aussi de votre inventaire. Mais après avoir traversé tous ces espaces-temps, aujourd'hui vous vous sentez nombreux, Thierry Tuenyang, c'est-à-dire vous vous sentez un peu le multiple de vous-même?
Non, je me sens une addition de tous les moments, avant moi, de tous les moments après moi. Je suis l'addition de toutes ces différences, mais c'est aussi pas que des différences, c'est aussi de toutes ces couleurs. Et il y a aucun poids. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que plus je vieillis, plus je me sens léger.
En sol majeur. @rfi.fr.
Merci à vous Thierry Tuenyang d'être passé nous voir en sol majeur et puis bon vent à tous vos futurs projets. Et c'est avec une chanteuse britannique Adele qu'on va refermer cet en sol majeur. Le tour du monde, de tous vos mondes continue, puisqu'après Berlioz, on a une petite tranche d'électro. To stand in your arms En sol majeur avec Caroline Filliette, Boris Vichit, Thomas Ferrière, Yasmine Chouaki. On se retrouve demain avec le rappeur Mokobé. À demain.